Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là, faut essayer.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Salut.
Bonsoir, vous êtes bien sur le Canu Info du lundi 16 novembre, confiné mais déterminé. On commence tout de suite par l'annonce des titres.
À l'international, donc, on ira aux États-Unis pour parler de Joe Biden, dont on aurait tort d'acclamer trop vite. Et puis on ira au Pérou pour parler du coup d'État.
Au national, nous parlerons d'abord des nouvelles peines encourues suite au blocage des facs. Ensuite, nous aborderons le sujet du secrétaire d'État à la jeunesse qui saisit l'inspection contre la Fédération des centres sociaux. Puis, nous nous intéresserons aux actes de torture qui ont eu lieu dans un commissariat du 19e arrondissement à Paris. Et enfin, nous parlerons de ce scandale des enfants qui ont été arrêtés à domicile pour apologie du terrorisme.
Au local, on vous donnera des nouvelles de Bachir qu'on avait interviewé dans l'émission de la semaine dernière, lorsqu'il était enfermé au centre de rétention administrative de Lyon, et des nouvelles d'Anas, un étudiant qui s'était immolé l'an dernier en dénonçant la précarité étudiante.
Et on commence donc avec les brèves.
On commence avec un point sur les mobilisations. Les enseignants ont fait grève ce mardi 10 novembre pour obtenir la réduction des effectifs d'élèves présents, mais la revendication n'a pas été entendue par Jean-Michel Blanquer. Samedi dernier, ce sont 5000 personnes qui ont défilé dans les rues toulousaines pour exiger des moyens supplémentaires pour les hôpitaux. Le taux de chômage, lui, s'envole à 9% au troisième trimestre selon l'INSEE. Ainsi, le nombre de chômeurs atteint le chiffre de 2,7 millions. On continue à mourir dans les prisons françaises. La famille de Taroufik Belritri réclame la vérité et la justice sur les circonstances plus que troubles de son décès, puisque la mort de Taroufik a été annoncée à sa famille 21 jours, oui, 21 jours après avoir eu lieu. Un silence complice et coupable. Pire, le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan dit que Taoufik serait mort en s'étouffant pendant qu'il mangeait. Non, c'est pas une blague, c'est du foutage de gueule. Force et soutien à sa famille. Malheureusement, les suppressions de postes continuent. La fermeture de l'usine Bridgestone de Béthune a été confirmée par Elisabeth Borne à l'issue d'une réunion avec la direction du groupe. Born to be non free, puisque le sort de 853 salariés du site a été réglé en quelques minutes seulement. La Société Générale, quant à elle, a annoncé cette semaine la suppression de 640 de ses postes en France. Ces coupes font partie du vaste plan d'économie de 450 millions d'euros d'ici 2023, et il a pour but d'augmenter la rentabilité de l'entreprise. Le groupe Printemps, des grands magasins Printemps, envisage de supprimer 428 emplois en France d'ici juillet 2021, soit plus de 10% de ses effectifs. C'est l'hiver pour le printemps. ça se crache toujours autant dans l'aéronautique, puisque l'entreprise sous-traitante d'Airbus AK Technologies envisage de supprimer 1150 postes sur les 2200 du site de Blagnac, dans la banlieue toulousaine. Plus réjouissant cette fois, deux procès impliquant des gilets jaunes victimes de violences policières ont eu lieu jeudi dernier, avec le premier à Paris où un policier de la CSI 75 a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour des violences commises contre deux frères gilets jaunes, ça fait plaisir. Le deuxième a eu lieu à Lyon où une gilet jaune a saisi le tribunal administratif et demandé réparation à l'État pour avoir reçu un tir de LBD 40 à la jambe en février 2019. Et elle pourrait bien obtenir justice puisque la rapporteure publique a demandé la condamnation de l'État. En Pologne, une victoire pour les mouvements féministes puisque l'arrêt du tribunal constitutionnel jugeant l'avortement inconstitutionnel en cas de malformation grave du fœtus ou de maladie incurable a été suspendu. Passons tout de suite à
International. Et comme promis à l'international, il est temps de découvrir qui est Joe Biden, ce nouveau sauveur de l'Amérique.
Ouais, les médias mainstream occidentaux s'en réjouissent. Enfin, un retour à la normale. La droite ultralibérale, réactionnaire, largement saupoudrée de racisme et de conservatisme au pouvoir aux États-Unis. Les grands patrons américains sont contents, la bourse est contente, l'armée américaine est contente, les grandes démocraties avec un grand D sont contentes. On est donc bien d'accord que c'est très mauvais signe. Bon, évidemment, loin de nous l'idée de regretter le départ de l'autre taré milliardaire, fasciste, raciste, misogyne, homophobe, ayant le pouvoir de déclencher des conflits dans le monde sur une simple saute d'humeur. Oui, mais voilà, le binôme Biden-Kamala Harris vend pas du tout du rêve, bien au contraire. Biden d'abord, c'est l'aile droite du Parti démocrate. Et autant vous dire que l'aile droite du Parti démocrate, c'est très à droite. Par exemple, les républicains, néoconservateurs, partisans des guerres impériales, de l'interventionnisme américain et du tout sauf Trump, sont pleinement satisfaits de la victoire de Biden. Ils ont tout fait, avec les démocrates conservateurs et centristes, avec tous les grands médias américains, New York Times et Washington Post en tête, pour que Biden gagne les primaires démocrates face au péril rouge de Bernie Sanders, l'aile étonnamment très à gauche du Parti démocrate qui a failli, ou presque pas, remporter les primaires. Tout a été mis en œuvre pour que Sanders perde et que Biden gagne. Et comme d'habitude, ça a bien fonctionné. Sur le plan international d'abord, la team Biden considère que le monde ne saurait s'organiser lui-même, qu'il lui faut un guide, un chef, et que ce chef, ce sont bien sûr les États-Unis. Pour eux, il n'y a pas d'autre solution que de reconstruire un ordre au sein duquel l'administration Trump n'a constitué qu'une parenthèse destructrice. Autant vous dire que l'impérialisme américain a de beaux jours devant lui. À titre d'exemple, Biden était en 2003 un fervent partisan de l'intervention impérialiste en Irak. On en connaît aujourd'hui la catastrophe humaine et sociale que cela a représenté. Sur le plan économique ensuite, Biden est un ultralibéral, partisan de la non-intervention de l'État et de la bonne vieille école néolibérale avec toutes les inégalités sociales que cela implique. L'hécatombe sociale provoquée par la crise économique actuelle va bel et bien arriver. Le capital, lui, va être protégé sur le dos de dizaines de millions de travailleurs et de travailleuses. Quant au côté soi-disant progressiste du duo Biden-Harris, parlons-en. Il est censé être représenté par Kamala Harris, présenté comme par les grands médias, pardon, et bon nombre de représentants politiques comme un espoir pour la cause des femmes et des minorités. Mais quand on s'intéresse de plus près à son parcours professionnel, ça fait froid dans le dos. Car Kamala Harris n'est ni plus ni moins connue que comme étant la meilleure flic de Californie. Procureur du district de Californie pendant 7 ans, de 2003 à 2010, elle devient la première femme noire à occuper le poste de procureur général de Californie. En 2014, elle refuse de lancer une enquête sur la mort de deux Afro-Américains abattus par des flics blancs. En 2015, elle s'oppose à un projet de loi visant à l'obliger à nommer un procureur spécialiste dans la poursuite judiciaire des violences policières. Durant ses mandats, elle a persécuté les sans-logements, massivement incarcéré les pauvres des quartiers populaires généralement issus des minorités, criminalisé les travailleuses du sexe, etc. Bref, elle a évolué et s'est construite dans le monde raciste et sexiste des institutions policières et judiciaires américaines. Quant à Biden, rappelons que c'est un fervent défenseur du Patriot Act et autres attaques sans précédent aux États-Unis sur les libertés individuelles. Il se vante d'avoir, au début de sa carrière politique, accordé des faveurs à des ségrégationnistes. Et on n'oublie pas bien sûr que Biden, exactement comme Trump, est sous le coup de plusieurs accusations d'abus et de harcèlement sexuel largement mis sous silence par les médias ces derniers mois. Quatre belles années à venir donc, à la tête de la première puissance économique et militaire mondiale.
Et puis on passe tout de suite au Pérou.
Au Pérou, lundi dernier, le Congrès a destitué le président Martín Vizcarra pour corruption. Le problème, c'est que Vizcarra a été destitué par des députés qui sont, eux-mêmes corrompus. Face à ce qui ressemble à un coup d'État institutionnel, des milliers de personnes se sont mobilisées contre le Congrès putschiste, ainsi que contre le gouvernement par intérim de Manuel Merino, un conservateur de droite. Et cette mobilisation a déjà porté ses premiers fruits, puisque hier, le président par intérim a démissionné face à la pression de la rue. La destitution du président Vizcarra, arrivé au pouvoir après la démission du précédent président en 2018 suite à un autre scandale, s'inscrit dans un cycle d'instabilité politique profonde qui est lié à la crise du régime constitutionnel issu de la dictature fujimoriste des années 90. Pour rappel, Alberto Fujimori a dirigé le pays entre 1990 et 2000. Il est connu pour sa guerre anticommuniste acharnée contre le Sentier Lumineux, ce groupe communiste, et cette guerre a fait des milliers de morts. Mais le dictateur est aussi connu pour sa politique de contrôle des naissances par stérilisation forcée qui a avant tout touché les femmes indigènes. Le régime dictatorial, raciste, laisse également derrière lui un État néolibéral forgé à coups de dérégulation, de privatisation et de désengagement des pouvoirs publics. Depuis 1990, bien que plus au pouvoir, le clan fujimoriste reste très influent, notamment à travers son parti Fuerza Popular. De plus, tous les chefs d'État qui ont suivi après la dictature, donc après 90, sont impliqués dans des magouilles et ont été poursuivis pour malversation. Dernièrement, les élections législatives de janvier 2020 ont mené la droite au pouvoir avec en tête Acción Popular, le parti de Manuel Merino, ultra-conservateur. Alors que la gauche de Frente Amplio, le front élargi, a dû se contenter de seulement 9 sièges au Parlement, le FREPAP, un mouvement messianique et raciste et homophobe, a obtenu lui 15 sièges. C'est pas rassurant. Au Pérou donc, la corruption généralisée mine depuis longtemps la crédibilité des institutions étatiques péruviennes. Il s'agit là d'une corruption systématique qui concerne tous les niveaux de l'État et qui vient directement du fonctionnement clientéliste hérité de l'ancienne dictature. Les scandales et les enquêtes s'enchaînent et rythment l'actualité de ces dernières années. Le plus connu d'entre eux concerne sans doute le réseau composé d'un cartel d'entreprises du bâtiment péruvienne et du conglomérat brésilien Odebrecht, qui aurait formé ensemble un club de construction pour corrompre les fonctionnaires dans l'optique de remporter des marchés publics. C'est pas du joli. Il y a quelques années, c'était au tour du pouvoir judiciaire de se retrouver au cœur d'un vaste système de faveurs entre des membres du Conseil national de la magistrature et plusieurs politiciens et patrons pourris. En outre, le contexte sanitaire est catastrophique. Avec 35 000 morts depuis le début de la crise, le Pérou est le deuxième pays du monde le plus durement touché. L'épidémie renforce ainsi les inégalités sociales déjà bien visibles, comme le prouve par exemple à Lima, un mur de 10 km de long qui a été construit pour séparer les gated communities, vous savez c'est ces quartiers privés d'ultra-riches qui sont fermés et hyper sécurisés, pour les isoler donc des bidonvilles alentour où logent surtout les communautés indigènes. Pour protester contre le coup d'État institutionnel, des concerts de casseroles et des manifestations ont surtout regroupé la jeunesse et des étudiants. Jeudi dernier, à Lima, où ont eu lieu les manifestations les plus importantes, la police nationale a déchaîné une brutale répression. Lorsque la manif a voulu pénétrer dans la zone où se trouve le Parlement, les flics ont tiré, faisant au moins 2 morts touchés par des tirs de cartouches en plomb. Et oui, ce sont des tirs à balles réelles au Pérou. Et malgré le caractère pacifique des manifestations, la police, et en particulier le Grupo Terna, sorte d'équivalent de la BAC et librement inspiré par elle, n'a pas arrêté d'harceler les cortèges. Bref, après cette première victoire obtenue hier, qui représente donc la démission du président par intérim, espérons que le mouvement parvienne à arracher d'autres revendications majeures, comme le changement de la constitution qui est issue de la dictature, ou bien la création d'une assemblée constituante, slogan qui revient souvent dans les manifs. Et pour souhaiter force et courage au peuple péruvien, écoutons tout de suite le rappeur militant de Lima, Pedro Mo, avec son morceau « En que estás ».
Ensayo de del camarada Lakrasov y algunos cómplices metafísicos.
Pero, ¿dónde estabas? ¿Por qué no estabas acá?
¿Por qué no?
¿Dónde? ¿En qué estabas?
¿Dónde tenías que estar?
¿Dónde tenías que estar?
¿Dónde es?
La Reco.
Sí.
Pinto en el vid el déficit de este país. Aparta cáliz de mi boca, marca de mi lápiz costra. Pues sin rostro Castro Castro a las sombras de unas piedras gordas. Preso de los actos que registro, el precio de buscar un cambio. La represión los aplastó, tu casco se gastó. Náufragos en listas negras, hiedras que heredas congresistas. Bandos son baratos, pero pueblo que se integre en la pelea. Unidad, una pangea de igualdad, si igual jazz. Lucha por la guagua, por el agua, por la tierra proletaria. La malaria de manías y marías, tu amaría mala vida si pudieras disfrutarla. Yo no soy sutil, 80,000 a los que olvidar. Ya sentidos que engañar con ganja. Tu alma me acompaña a la otra campaña. Se me avinagran dramas en la flema buscando un mañana. Gangrena, desde el primer tema. Rap es realidad, tu juguete del sistema. Vergüenza ajena, escucho quenas en pena que se flagelan. ¿Qué más te queda si te quiebras con cada faena? ¿En qué estás? Enquetas, tanquetas y protestas. Lágrimas paupérrimas, ninguna digna de incluir acá. Nada peor que oír al tombo y su política. Con banto en tu cráneo entro de una forma psicotrópica. El partido abortó, sobornos al obispo, al ministro, al milico. Corruptos y asesinos, ¿quiénes son terrucos si te llevas nuestros hijos y los dejas debajo de crucifijos? ¿En qué estás si no te pones metas? Justicia y democracia bajo metralletas. Es que vos no sé en qué estás. ¿Por dónde caminas? ¿Qué es lo que das? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuántas mañanas verás? ¿En qué estás si sigues estas reglas y sus dogmas? Ya por favor no estés más molesta si no sabes. ¿En qué estás? Noches bohemias, las siete plagas. Hagas lo que hagas, no te salvarás. Se dice que Perú es un país difícil, también que su ignorancia lo hace débil. Que no sería la voz si no pensaras en quererte ir. Pues aquí solo alcanza para sobrevivir. Que solo viven bien unos 50 entre mil. Y entre mil, más de uno te quiere agarrar de Gil. Gil, tu peor error es mostrarte débil. Yo llevo en cada párrafo un misil. No es mi intención dejarte imbécil, pero más lo sería yo si me dejara confundir por el sistema de un gobierno que promete el cielo. Y más de la mitad vive en un infierno. Y di que no, que al margen del pasado y tanta crítica, hoy pocos hacen mucho sin esperar nada a cambio. ¿Y qué cambió si el pan subió? Si hoy se ven niños de dos vendiendo caramelos. Si la justicia se vende por un par de so y la tristeza se ahoga en otro vaso. No tiene caso seguir hablando de lo mismo. Llegaron Pedro y Pablo para tu exorcismo. Rompe cadenas, deja esas penas y verás que solo depende de ti creer que eres capaz. No seas otra más de tantas víctimas. Aquí lo que normalmente fluye son las ideas. ¿En qué estás? ¿En la ropita o en buscar fanáticas? Es fácil darse cuenta cuando no practicas. Aquí llevamos la misión de llegar con rima. ¿Y tú, primo? ¿En qué estás? ¿En qué estás? Si no te pones metas, justicia y democracia bajo metralletas. Es que vos no sé en qué estás. ¿Por dónde caminas? ¿Qué es lo que das? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuántas mañanas verás? ¿En qué estás? Si sigues estas reglas y sus dogmas, ya por favor no estés más molesta si no sabes. ¿En qué estás? Noches bohemias, las siete plagas. Hagas lo que hagas, no te salvarás.
Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi 16 novembre et on vient d'écouter Pedro Mo avec son morceau En qué estás. On passe tout de suite au...
National.
Et tout d'abord, un sujet sur la pénalisation des blocages à la fac.
Alors, ce projet de loi a été présenté au Conseil des ministres le 22 juillet dernier. Et ce n'était déjà pas très joyeux, puisqu'il s'agit pour l'essentiel d'entériner la mise en concurrence des secteurs de la recherche et son financement par appel à projet, comme c'est déjà de plus en plus le cas dans les faits. Toujours pas de financement pérenne pour des recherches de fonds, comme c'est ce que demandent les chercheurs dans tous les domaines. La loi est pourtant présentée comme une solution au mauvais fonctionnement de la recherche, au fait que pour survivre, les chercheurs doivent publier beaucoup et donc passer moins de temps à effectivement faire de la recherche, et surtout le fait qu'ils doivent faire de la recherche orientée vers les intérêts des grandes entreprises qui les financent. La loi passe à côté de l'essentiel donc, en promettant certes une augmentation des budgets, bien que jugée insuffisante, mais en ne modifiant pas la structure même du secteur et même en l'aggravant. Le financement par appel à projet, c'est d'une part la précarisation des chercheurs qui ne peuvent donc obtenir que des CDD ou des postes de vacataires, alors que pour de la recherche de fond, il faudrait des postes fixes. Et puis cela ne libère absolument pas l'orientation des recherches, qui vont continuer à s'orienter vers les thèmes qui rapportent et non pas des thèmes utiles. Bref, c'était déjà une loi pourrie, mais depuis le 9 novembre, un amendement a été adopté par la commission mixte paritaire. Il dit ceci. Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur sans y être habilité, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est passible de sanctions. Et les sanctions en question, c'est jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Officiellement, ce serait pour sanctionner les blocages de conférences, comme il y en a souvent. Mais comme c'est plutôt quand l'extrême droite est invitée à s'exprimer dans les facs que ces blocages ont lieu, on ne voit pas trop en quoi cela pose problème. Mais en fait, de toute façon, ça ne se bande pas qu'à ça, puisque les choix des mots « se maintenir » et « troubler la tranquillité et le bon ordre de l'établissement » permettent tout à fait de cibler les occupations de fac, ou même tout simplement les manifestations organisées au sein des universités. Puisqu'a priori, si les étudiants ne sont pas en cours, ils ne seront plus les bienvenus sur le campus. De quoi mettre facilement un bon coup à toutes les futures mobilisations étudiantes et faire passer sans difficulté toute réforme sur la sélection à la fac ou l'augmentation des frais d'inscription, puisque ce type de réforme rencontre apparemment encore trop de résistance pour le gouvernement. Et pourtant, les mobilisations étudiantes, elles prenaient déjà cher, et depuis un moment maintenant, depuis qu'il est fréquent de voir les forces de l'ordre intervenir sur les campus, autrefois un peu protégés. Nous le rappelle la situation de Victor et Roga, qui ont subi la violence des CRS à Nanterre en 2018 et qui risquent pour cela de la prison ferme, puisqu'officiellement ce sont les CRS, casqués, en armure, avec boucliers, rangers et gants de protection qui auraient subi des violences. Pour conclure, on sait ce que veut vraiment le gouvernement, faire passer le plus de lois liberticides pendant la crise sanitaire. Ce que montre bien le fait que la loi est actuellement en procédure accélérée. Pour rappel, c'est aussi le cas de la loi de sécurité globale, celle qui généralise la surveillance par drone, entre autres choses. On vous en parlait la semaine dernière. Pour la loi de programmation de la recherche, elle passe demain à 15h devant l'Assemblée nationale pour son adoption définitive. Pour l'occasion, et depuis vendredi, des universitaires mènent une grève appelée écran noir, puisqu'en télétravail, pour faire grève, il suffit d'éteindre son ordinateur. Et les collectifs à l'initiative de la grève envisagent de la prolonger si le texte est adopté.
Parlons maintenant de la secrétaire d'État à la jeunesse.
L'autoritarisme du gouvernement et son délire autour du principe de laïcité continuent. Et cette fois, c'est Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, qui saisit carrément l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche pour enquêter sur la Fédération des Centres Sociaux et Culturels. Oui, la secrétaire d'État est très inquiète et demande à ce qu'une enquête ait lieu sur les centres sociaux et culturels réunis en fédération, suite à la dernière édition du projet Réseau Jeunes, une rencontre sur plusieurs jours qui réunit chaque année une centaine de jeunes usagers et impliqués dans différents centres sociaux en France. Pour cette 10e édition, 130 jeunes de 15 à 20 ans venant de 45 centres sociaux en France se sont rassemblés à Poitiers fin octobre, et comme chaque année, ils ont décidé en amont par vote du choix du thème de la rencontre. Ils et elles avaient choisi comme sujet des débats les religions. La fédération a invité la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement qui a répondu présente, même si elle a prétendu par la suite que le thème proposé initialement était la laïcité et que la fédération avait ensuite changé de discours. Pourtant, la secrétaire d'État a reçu une invitation très claire en juillet qui mentionnait le thème et le titre des rencontres « Oh my God ». Il s'en passe des choses décidément dans la tête des membres du gouvernement. Les 130 jeunes, répartis en plusieurs tables rondes, avec chacune un porte-parole, ont discuté de ce qui les concerne et les touche dans leur vie quotidienne, demandant par exemple des repas de substitution qui seraient conformes à leurs convictions religieuses dans les écoles et l'autorisation de porter des signes religieux comme le voile au lycée, et aussi l'arrêt des discriminations. Quand les jeunes parlent de violences policières, qui font encore une fois partie de leur quotidien, la secrétaire d'État leur répond qu'il faut aimer la police car elle est là pour vous protéger au quotidien. Elle ne peut pas être raciste car elle est républicaine. C'est assez simple finalement, l'autoritarisme macronien. Il suffit d'interdire aux gens de parler des choses pour qu'elles n'existent pas. Arrêtons de parler des violences policières, ça n'existe pas. Et surtout, ne parlons pas de religion, c'est contraire à la laïcité. Certains auraient d'ailleurs dit, parmi les jeunes, que la loi de 2004 qui interdit le port du voile dans les établissements scolaires publics est islamophobe. Ça n'a vraiment pas plu à la secrétaire d'État et à son cabinet, qui affirme que les centres sociaux et les animateurs de ces centres ne devraient pas laisser les jeunes tenir de tels discours. Au lieu de participer au débat, Sarah El Haïry n'a fait que répéter des mantras républicains et à court d'arguments, elle a fini par prendre le micro et chanter la Marseillaise pour clore le débat. Les jeunes, estomaqués évidemment, ne savaient plus quoi faire et certains ont d'ailleurs soufflé dans la salle que c'était un chant barbare, ce qui, encore une fois, n'a pas plu au cabinet de la secrétaire d'État. Tout ça, c'est donc le signe que les animateurs des centres sociaux, ces gros gauchistes, laissent les jeunes tenir des discours anti-républicains et que les jeunes ne sont pas assez challengés et contredits dans leurs discours. Au gouvernement, la liberté d'expression et les discussions collectives, c'est comme la laïcité, qui, on le rappelle, consiste en une séparation de l'Église et de l'État et une neutralité de l'État permettant de garantir le respect des convictions religieuses de tout le monde. Donc, c'est la liberté d'expression, c'est comme la laïcité, c'est bien de le répéter comme un mantra aux autres, mais c'est pas la peine de l'appliquer à soi-même. Trois inspecteurs sont donc maintenant chargés d'examiner les statuts de la Fédération des centres sociaux, le programme de l'événement, les participants et participantes. Ils veulent même rencontrer les jeunes, même mineurs. La Fédération a indiqué que ça ne pourrait avoir lieu que sur la base du volontariat des jeunes et avec l'accord des parents. On se demande vraiment quelles sont les limites de ce gouvernement niveau harcèlement et maltraitance d'enfants au nom de la laïcité et des prétendues valeurs de la République. Ce qui rejoint un autre sujet dont on va parler tout à l'heure avec les arrestations et les gardes à vue de mineurs pour apologie du terrorisme.
Et pour continuer avec les mauvaises nouvelles, parlons des actes de torture dans un commissariat du 19e arrondissement à Paris.
Allez, soyons fous, impunité, folie policière un jour, impunité, folie policière toujours. Plusieurs personnes dénoncent des scènes terrifiantes de très longs passages à tabac menés par des flics d'un commissariat situé dans un quartier populaire du 19e arrondissement de Paris, accompagné bien sûr de son lot d'insultes racistes et de menaces de mort. C'est le journal Street Press qui a eu le courage de relayer ces nombreux témoignages absolument terribles. Quelques exemples. Moa, le prénom est changé, algérien, 37 ans, est violemment tabassé dans la nuit du 7 au 8 juillet 2020. Le soir, embarqué par trois agents de la BAC à la suite d'une altercation avec un couple de voisins. Alors qu'il est à l'arrière du véhicule et menotté, le calvaire commence. Je cite, « Je prends des coups de poing dans le ventre, des gifles et les premières insultes racistes. » De type « sale bougnoule, retourne chez toi ». Une fois au commissariat, alors qu'il est menotté de la main droite, pour l'instant, menace et intimidation. Je cite « Quand j'aurai fini de m'occuper de toi, ta mère ne te reconnaîtra même plus ». À chaque fois qu'il répond, les flics le tapent, le giflent, lui mettent des coups de poing dans la tête, des coups de pied dans les côtes, par 8 policiers au total. Et des menaces de mort, de type « Putain, j'ai envie de le tuer ». Des attaques verbales envers sa mère, on va la faire tourner au comico cette salope. Mais Moa refuse de se laisser insulter sans rien dire. Grave erreur. Un agent de police se place derrière lui et l'étrangle. Il se débat. Pendant ce temps-là, un autre flic lui attache sa main gauche encore libre. À ce moment-là, il s'est pris de très nombreux coups de pied dans le ventre et dans le thorax. À l'issue de ce passage particulièrement violent, Moa a demandé à voir un médecin de l'UMJ, l'unité médico-judiciaire, hein, qui ne sont pas du tout des alliés, médecin qui a assuré que son état était compatible avec une garde à vue. Le lendemain, toujours en garde à vue, Moa redemande à voir un médecin qui, ce coup-ci, constate, sur certificat médical, des blessures corroborées quelques jours plus tard par un autre certificat et une radio attestant de côte fracturée. À l'issue de sa garde à vue, Moa a même été placé en prison jusqu'à mi-août, donc quasiment un mois et demi, où il a été relâché pour nullité de procédure. Il a depuis porté plainte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Bon courage à lui. D'autres témoignages font également froid dans le dos. En voici rapidement un autre. Pierre, François et Karim, prénom également modifié, qui sont rencontrés lors de leur garde à vue en décembre 2019. Pierre et François témoignent lors de leur garde à vue. Nous, ils nous ont rien fait, juste des insultes. Mais ce qu'ils décrivent s'apparente à de la torture. Attention. Ce soir-là, pendant que deux policiers tiennent le bras de Karim, il se prend de violents coups de pied dans les côtes, des coups de poing, des coups de matraque, l'étrangle. Tout ça par plusieurs policiers pendant que les autres jouent au Uno. Ça s'invente pas. Le même soir, les deux mêmes, toujours en garde à vue, voient pire. Un homme dénudé, au sol, la jambe recouverte d'un bandage ensanglanté et les mains menottées au cerflex pendant que les flics se foutent de sa gueule. Là, je cite Pierre et François. Ça les faisait marrer, les flics. Le mec pleurait et gémissait en arabe. On a compris par les commentaires des flics qu'il s'était chié dessus. Le mec n'était pas en état de marcher. Ils lui ont apporté un fauteuil roulant. Les flics disaient qu'il puait la mort, ils ont pris du Air Wick et lui ont gazé la gueule. Après, ils ne voulaient pas le toucher, alors ils lui ont mis des petits coups avec leur espèce de bouclier pour qu'il se hisse dans le fauteuil le plus vite possible. Voilà, on s'arrête là pour l'horreur et les exemples terribles. Ça fait plusieurs années que des articles de presse relatent l'extrême violence de ces flics. Il y a beaucoup d'autres exemples. Tout récemment, le journaliste infiltré Valentin Gendreau en a rajouté plusieurs couches. Ces flics ont beaucoup de sang sur les mains, des lycéens de Bergson en 2018 en passant par la mort de Liu Shaoyao en 2015. La liste est beaucoup trop longue et je vous invite à lire les articles de Street Press. Pour le moment, en toute impunité, alors qu'en parallèle, on va bientôt nous empêcher de diffuser des images des violences policières avec la loi Sécurité Globale. L'impunité policière a de très très beaux jours devant elle.
Et du comico à l'école en passant par le domicile, la répression de l'État touche aussi les enfants.
Lors de l'hommage organisé dans les établissements scolaires à Samuel Paty, enseignant d'histoire géo horriblement décapité après avoir organisé dans sa classe une discussion sur les caricatures du prophète Mahomet de Charlie Hebdo, les personnels de l'éducation nationale avaient pour consigne de signaler tout propos considéré comme douteux de la part des élèves et de transmettre ces informations au parquet. En plus du fait que le format de cet hommage a été imposé par le gouvernement sans laisser aucun espace au débat et à la discussion que certains profs auraient aimé organiser dans leur classe, de super éducateurs et éducatrices se sont donc empressés de signaler tout un tas de gamins, parfois très jeunes, ouvrant la voie à une réponse policière et judiciaire musclée à ce qui ne sont que des propos d'enfants, auxquels les éducateurs et éducatrices devraient évidemment répondre, mais par autre chose que des gardes à vue et des convocations, qui provoquent encore plus d'incompréhension, de peur, de frustration et une haine finalement bien compréhensible des institutions de la dite République garante de la liberté d'expression. La journaliste et militante antiraciste Siam Asbag a recensé dans un post Facebook les convocations et arrestations parfois au domicile des élèves et ça donne le tournis. À Strasbourg, une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte contre deux collégiens de 12 ans. Des enfants de 8 et 9 ans ont également été signalés. Une évaluation sociale a été ordonnée. À Marseille, 3 mineurs âgés de 14 à 16 ans ont été placés en garde à vue pour apologie du terrorisme. Parce que l'un aurait dit que Samuel Paty l'a bien cherché et l'autre aurait refusé de se soumettre à la minute de silence. À Bourges, un lycéen de 15 ans a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme après avoir envoyé des vidéos de décapitation à ses camarades. Même le procureur considère que ça n'a pas à aller plus loin, c'est un jeune fasciné par la violence, par les images, qui n'avait pas mesuré la gravité de son geste. À Noyon, un mineur a été signalé pour apologie du terrorisme. Finalement, selon le procureur, il s'agissait d'une réflexion stupide, pas adaptée à la période, mais pas du tout de la provocation à la commission d'actes terroristes. Et il écope d'un rappel à la loi, quand même. À Albertville, surtout, 4 enfants âgés de 10 ans ont été arrêtés pour apologie du terrorisme. Et la police est venue les chercher chez eux, à leur domicile, à 7h du mat. Ils ont été détenus et interrogés pendant 9h. Ils sont donc bien traumatisés et terrorisés à 10 ans par la police française. À Paris, une collégienne âgée de 15 ans a été mise en examen pour apologie du terrorisme après avoir dit qu'elle était choquée par les caricatures du prophète Mohamed et que Samuel Paty n'aurait pas dû les montrer en classe. On comprend pas bien en quoi ça relève de l'apologie du terrorisme. À Cambrai, 3 lycéens âgés de 15 à 17 ans ont été mis en examen pour apologie du terrorisme et menaces. On n'en sait pas plus, à part que le procureur lui-même a dit qu'on n'a pas du tout affaire à des gens inscrits dans un processus de radicalisation. À Quimper, un adolescent de 17 ans a été déféré devant un juge des enfants. À Hyères, 2 collégiens de 14 et 15 ans ont été interpellés chez eux et placés en garde à vue pour apologie du terrorisme. À Saumur, un enfant de 11 ans a été placé en rétention judiciaire et déféré au parquet. Il aurait répondu à une remarque de son professeur en disant « Ne me parle pas comme ça, sinon mon père va te décapiter ». Le professeur a porté plainte. Toutefois, d'après le commissariat, il n'y aurait pas de connotation terroriste, ni même religieuse, parce que l'enfant en question n'est pas de confession musulmane. C'est donc bien clair. Une fois de plus, il ne s'agit pas vraiment de combattre le terrorisme, mais plutôt de saisir toutes les occasions possibles pour réprimer des jeunes issus de l'immigration, de religion musulmane ou plus largement de culture islamique, dans la continuité d'une islamophobie d'État qui s'exprime dans toute sa férocité depuis quelques mois. Et tant pis si au passage on fait des rafles d'enfants en les traumatisant à vie.
Et tout de suite on écoute un son d'ACS, un groupe de rap local qui s'appelle Amphizède et c'est en référence donc au squat de l'Amphizède de Villeurbanne et ce sera la bande originale d'un film, d'un documentaire qui va bientôt sortir sur l'Amphizède.
comprendre le système pour le détruire. Glace de leur vie, j'en veux débris. Ça cause dans la rue, j'entends des cris. Leur monde, faut le mettre en débris. Élu, tu laisses des vies sur le macadam. Sur les murs, y'a les tagaka comme alpaga. On nous traque, mais on nous plus de flammes qui brûlent que dans cadre attaque. Eh, au pouvoir sont les voyous, faut l'admettre. On sera à nos balcons pour taper dans nos mains. Pour soutenir à 20 ans quand ils perdront leur tête. Face à l'Afrique, dans l'autre sens, c'est la dette. Plus t'es utile, et ben moins t'es payé. Le business du bonheur ne va pas t'égayer. 2020, il faut prendre position. Mais pourtant, les rappeurs continuent de bégayer. Ça me gêne. Quand je vois les clips des enfoirés, en moi remonte la gerbe. Compter sur les autres, ça ne s'apprend pas en cours d'algèbre. Mineur dans la rue, je n'ai pas les mots gros, c'est abject. Après les drones, quel sera dans le prochain gadget? Police harcèle comme Tad Malsis. La procédure Dublin, elle est grave raciste. Et l'histoire officielle par des chefs, moi je la vois populaire à la Harman Chris. A contre-sens, on n'est pas cartiste. Le but c'est que les idées laissent des traces à vie. La violence n'est pas celle qui casse la vitre. Révolution, faut qu'on fasse ça vite. Mais ils sont à fond et fait péter le sound system. La gauche, la droite en corruption, c'est ambidex. Force et soutien aux camarades, aux gens qui aident. Malgré les coups, on reste debout comme l'amphisède. Malgré les coups, on reste debout comme l'amphisède.
Sur les lois, tirs sans sommation. Ils n'autoriseront l'ouverture des frontières que pour les biens de consommation. Bien évidemment, tout ça est volontaire. Yeah, yeah. Beaucoup cette vie est un enfer. Yeah, yeah. Quelle triste époque. Mais on ne lâchera pas l'affaire.
Je t'en supplie, fais pas de mal à ma sœur. Ne fais pas de mal à mon frère, idéaux d'entraide, ouais, parle à mon cœur. Faut qu'on lutte fort, je ne veux pas dans mon terme. Faut qu'on réplique par la lenteur, c'est pas le fric qui éclipsera la lanterne. En équipe, on esquivera le menteur, ainsi que leur récit parlementaire. Je sais que le climat est hoche en ville, que les personnes faussement de gauche s'empilent. Politique se remplissent les poches tranquilles, pendant que se multiplient les logements vides. Hein, écoute-les parler de progrès, contre leur système on maugré. La mort de pauvres et d'étrangers passe inaperçue comme à la storm maugré. Le maire de la ville inactive, demandeur d'asile a peur quand la milice arrive et le préfet se régale de sa milliardise. Quand le ministre attend que les milliards filent. Ça me donne envie de teaser du William Peel. Surtout que des gens pour toucher les minimatrimes. Mais pendant ce temps la zig se définit par le stream. Et le game ne fabrique que les minis artistes. Le rap est dead. Les droits d'être vivant bafoués dans les cras. Des MNA sans lit, des migrants dublinés. Dis-moi comment puis-je avoir confiance en l'État si son existence produit des corps mutilés. L'union fait la force, le feu s'élabore quand on crie. Si tu défrais la norme, ouais le désaccord a son prix. Et les droits de l'homme, ma sœur, s'évaporent en son prix. Et je crois fort que c'est pas parce qu'on n'est pas mort qu'on vit.
Jamais, jamais. Non. Yeah, yeah. Sur les lois, tirs sans sommation. Ils n'autoriseront l'ouverture des frontières que pour les biens de consommation. Bien évidemment, tout ça est volontaire. Yeah, yeah. Beaucoup cette vie est un enfer. Yeah, yeah. Quelle triste époque. Mais on ne lâchera pas l'affaire.
Oh, ne lâchera pas l'affaire. Ne lâchera pas l'affaire.
Enfuis ça.
Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi 16 novembre et vous venez d'écouter Amphizède du groupe lyonnais ACS. On passe maintenant tout de suite au
local.
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 Et on commence par des mauvaises nouvelles de ce qui est arrivé à Béchir, dont vous avez écouté le témoignage de l'intérieur du CRA la semaine dernière.
La semaine dernière, on vous diffusait l'interview de Bachir, qui était alors enfermé au CRA de Saint-Exupéry. Il y racontait comment il y avait été torturé par des policiers le 1er novembre, tabassé. On lui a écrasé les testicules, puis il a été attaché avec du scotch pendant des heures avant d'être enfermé à l'isolement, sans couverture ni chauffage. Son crime est certainement d'avoir osé témoigner dans des médias et lors d'une enquête de l'IGPN en septembre, alors que son codétenu de cellule avait subi lui aussi un tabassage dans une chambre sans caméra. L'enquête n'avait pas eu de suite, bien que la personne tabassée avait été auscultée par un médecin qui avait constaté des hématomes et des abrasions du visage aux chevilles. Et Bachir en paye encore le prix, puisque depuis il a subi les provocations des flics qui l'ont pris en grippe, le tabassage qu'il nous a raconté, et il est aujourd'hui incarcéré pour refus de test Covid. Il a pris 3 mois de prison ferme, autant dire qu'ils ont réussi à se débarrasser de lui. Le refus de test, c'est un nouvel outil pour faire transiter les sans-papiers du centre de rétention à la prison, comme c'est déjà une pratique commune en cas de refus d'embarquement. Cela les condamne à un cercle d'enfermement, puisqu'en sortant de prison, ils retournent au CRA. Dans le cas de Bachir, il nie avoir refusé le test et nie qu'on lui ait proposé 4 fois comme l'accuse le parquet. Mais les tests en CRA posent de toute façon de gros problèmes éthiques, puisque les détenus ne sont pas testés pour leur sécurité, mais en vue d'être expulsés seulement, puisque de nombreux pays n'acceptent plus d'entrer sur leur territoire sans ce fameux test négatif. L'Observatoire de l'enfermement des étrangers dénonce le fait que le refus d'un test soit considéré comme un refus d'éloignement, puisqu'il ne l'est que de façon très indirecte. Et il faudrait d'ailleurs que les médecins refusent de les pratiquer, puisqu'ils ne sont pas effectués dans l'intérêt médical de leurs patients.
Et pour finir, nous allons écouter le communiqué d'Anas, l'étudiant qui s'était immolé l'an dernier pour dénoncer la précarité étudiante.
Oui, on voulait relayer des nouvelles d'Anas, étudiant lyonnais et membre du syndicat solidaire étudiant, qui s'était immolé devant le Crous l'an dernier après avoir publié un message où il dénonçait la précarité étudiante. Il est sorti de l'hôpital l'été dernier et cette semaine, il a publié un message sur sa page Facebook pour la première fois depuis le drame de novembre 2019. Dans son texte, il explique qu'à ce moment-là, il traversait une période difficile, sans emploi stable, sans logement étudiant et sans bourse universitaire. Et il remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées suite à son geste, qui lui ont donné un sens politique, et toutes les personnes qui l'ont soutenu pendant sa convalescence. Il explique qu'il est donc brûlé au 3e degré sur 75% du corps, avec des amputations aux doigts. Après 5 mois dans le coma au service des grands brûlés de l'hôpital Édouard Herriot, où il a subi 48 opérations, il se trouve maintenant au centre médical de l'Argentière pour sa rééducation, avec encore des plaies ouvertes et de nouvelles opérations qui débutent. Il reprend ses études à Lyon 2 en distanciel et des activités liées au syndicalisme étudiant. Je vous lis la conclusion de son message. Je tiens à dire à toutes les personnes qui me liront de lutter pour leurs droits, car ce n'est pas dans la passivité qu'on arrive à défendre et encore moins à gagner de bonnes conditions de vie. Cela est encore plus vrai au temps où les populations les plus précaires sont bouleversées par la maladie du coronavirus. Il faut que nous, étudiantes et étudiants, salariés ou non, réussissons à unir nos forces à travers des syndicats. Il faut aussi que nous, grandes et grandes brûlées, amputées et autres accidentés de la vie et de sa précarité, prenons conscience que c'est vivant que nous pouvons améliorer notre quotidien en se battant collectivement, sans perdre espoir en la vie, au progrès de la science et en l'action collective. Voilà, et Anas a conclu ce nouveau message par le même message que celui qu'il avait publié avant son geste de l'année dernière. Vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécu. On lui souhaite beaucoup de courage et de force pour sa rééducation et pour les luttes présentes et à venir.
C'est maintenant l'heure du traditionnel agenda.
Au programme cette semaine, on a d'abord un rassemblement, mardi 17 novembre, donc demain à 18h, devant la préfecture du Rhône, contre la loi Sécurité Globale. Donc cette loi, on en a déjà parlé dans l'émission de la semaine dernière, elle prévoit notamment d'interdire la diffusion d'images de policiers, et aussi de renforcer l'usage de drones et de caméras et des caméras piétons par la police pour nous filmer. Donc l'examen de cette loi Sécurité Globale va commencer mardi 17 novembre à l'Assemblée nationale, et plusieurs rassemblements et manifestations sont prévus en France pour dire non à cette loi. Sachez que pour éviter l'amende, pour venir au rassemblement, vous pouvez vous munir d'un masque, bien sûr, mais aussi d'une attestation spécifique qui rappelle que les manifestations et les rassemblements ne sont pas interdits et vous permettent et vous autorisent donc à vous déplacer sans risque pour vous rendre à ce rassemblement. Le modèle de cette attestation est disponible sur le site rebellion.fr. À l'agenda toujours, on vous signale que l'association lyonnaise Kabiria relance sa cagnotte de solidarité avec les travailleuses et travailleurs du sexe qui se retrouvent en ce début de nouveau confinement, de nouveau sans revenus et dans une situation extrêmement précaire. Ils font donc appel de nouveau à la solidarité et pour faire un don à leur cagnotte, vous la trouverez sur le site helloasso.com. Pour finir sur l'agenda, on vous rappelle que les activités de l'espace communal de la Guillotière se poursuivent pendant le confinement. Le CG se situe donc au 45 rue Béchevelin dans le 7e arrondissement de Lyon. Et on a toujours les mercredis et vendredis à 18h des distributions alimentaires gratuites. Les jeudis de 17h à 19h un marché rouge avec des fruits et légumes à 1€ le kilo. Les mardis à 18h, des permanences juridiques à destination des demandeurs et demandeuses d'asile. les vendredis à 15h des permanences en droit du travail et les jeudis de 16h à 18h des permanences du collectif La guillotière n'est pas à vendre qui vient en aide aux personnes qui ont des problèmes en droit au logement, des problèmes de papier, des problèmes administratifs divers.
Voilà, on arrive à la fin de ce Canu Info confiné et on vous dit à la semaine prochaine.